France Inter.
Aujourd'hui, dans l'affaire sensible, on a enlevé Madame Dassault. En 1964, Marcel Dassault est l'homme le plus riche de France. Et sa femme, Madeleine, est donc l'épouse de l'homme le plus riche de France. Le 22 mai, elle est enlevée en bas de chez elle, dans le 16e arrondissement de Paris. Comme Marcel Dassault est aussi député de la majorité et fabricant d'avions militaires, le rapt tourne vite à l'affaire d'État. Mais qui est l'instigateur de cet enlèvement ? Des truands qui ont flairé le bon coup ? L'OS qui manque d'argent pour financer ses attentats ? Une puissance étrangère ? Un concurrent jaloux ? Le suspense ne dure pas bien longtemps. Sauf sans doute pour Madeleine Dassault, retenue 34 heures tout de même, c'est long. Alors que toutes les polices de France étaient en alerte, c'est une patrouille de gendarmes de l'Oise qui a découvert et libéré Madame Dassault. Voilà, l'histoire paraît simple, elle est pourtant plus étonnante qu'il n'y paraît. Notre invité aujourd'hui, Michel Polaco, journaliste spécialiste des questions d'aéronautique et de défense, auteur de nombreux reportages et ouvrages sur ces sujets. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire et rédaction en chef aujourd'hui, Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles sur France Inter.
Tout est doux en cette nuit du 22 mai 1964 à Paris. L'air est doux. La Cadillac Fleetwood glisse doucement sur le bitume des rues du 16e arrondissement pour rejoindre la douce avenue du Maréchal Monory, en bordure du très doux Bois de Boulogne, l'un des poumons verts de Paris. Le chauffeur a l'habitude de conduire souplement ce paquebot sur roues de 6 mètres de long qu'est cette Cadillac, avec climatisation et vitres électriques de série, ce qui est alors un luxe. En tout cas pour le français lambda, pas pour le couple assis à l'arrière. Le ronronnement du moteur couvre à peine la conversation. Peut-être lui et elle, 72 et 63 ans, discutent-ils de la soirée qu'ils viennent de quitter. C'était un dîner avec une douzaine de personnes que donnait leur ami Max, directeur des galeries Lafayette, place de l'Alma. Et puis le trajet n'est pas long jusqu'à l'appartement du couple. À minuit moins 5, le chauffeur, Louis Dubois, s'arrête devant l'immeuble. Il descend de la voiture et en fait le tour pour ouvrir la portière arrière droite. Le passager ne l'a pas attendu. Il commence déjà à rejoindre le perron. Louis Dubois, le chauffeur donc, se penche alors pour aider la passagère à sortir. Il raconte la suite devant les caméras du journal télé.
Tout d'un coup, j'entends M. Dassault qui tombe et puis qui crie. Alors je me retourne, je vois deux individus avec des loups noirs, loups noirs sur les yeux, et puis chacun avec un pistolet. Monsieur Dassault était par terre, et il me crie, mais faites quelque chose. Alors moi, les pistolets sous le nez, vous savez, pas tellement courageux quand même à ce point-là. Hein, c'est... Alors, j'ai quand même...
Pendant ce temps-là, les deux hommes entraînaient Madame Dassault vers leur voiture.
Ils tiraient Madame Dassault, là. Madame Dassault était assise par terre, ici, exactement, là. J'essaie de donner un coup de main sur Madame Dassault. Je suis repoussé violemment, hein. Et là, à ce moment-là, je retourne de ce côté-ci, comme ceci. Je me tourne là et je reçois un coup de crosse ici.
Madeleine Dassault est poussée sans ménagement vers le Citroën DS jaune. Elle se débat et tape ses ravisseurs à coups de parapluie, telle une Mary Poppins en colère. Horreur, un collier d'une valeur d'1 million de francs tombe par terre. La DS jaune se dirige vers l'ouest, un temps poursuivi par la 4L d'un automobiliste témoin de la scène. Mais après le pont de Puteaux, la DS accélère, prend l'autoroute et disparaît avec Madeleine. Devant l'immeuble de l'avenue du Maréchal Monory, Marcel Dassault reprend ses esprits. Il a 2 entailles au cou et au cuir chevelu, ainsi que des plaies sur le crâne et sur le front. Il monte jusqu'à son appartement et n'appelle la police comme le ferait n'importe qui. Ça, c'est bon pour la plèbe. Dassault, lui, appelle directement le ministre de l'Intérieur, Roger Frey. Et il lui dit « On vient d'enlever ma femme, on vient d'enlever Madeleine ». Le deuxième coup de fil est pour Pierre-Marie Gallois, directeur commercial de Dassault, un ex-général fondateur de la dissuasion nucléaire française. Dans son livre, Le sablier du temps, il écrit.
À mon arrivée, Marcel Dassault m'accueillit sobrement, anxieux de m'utiliser au plus vite. M'installer devant le téléphone pour attendre. Attendre la demande de rançon, tandis que lui-même, sur une autre ligne dans sa chambre, poursuivait ses démarches. Il était vêtu d'un pyjama de laine et d'une chaude robe de chambre, le crâne couvert d'un pansement, les traits tendus. De temps à autre, il réapparaissait au salon où je patientais devant le téléphone, avançant une idée, suggérant des pistes, impatient, agité, comme je ne l'avais jamais vu.
La préfecture de police dépêche sur place son plus fin limier d'alors, le commissaire Marcel Bouvier, vite rejoint par des inspecteurs de la PJ. Voilà donc une quinzaine de fonctionnaires qui s'activent entre les toiles de maître qui garnissent les murs de l'appartement des Dassault. Dehors, le dispositif est plus important, le plus important jamais mis en place, d'après les journalistes. 14 hélicoptères, 4000 CRS, 800 gendarmes, 400 barrages, mais pour l'instant, pas d'assaut. En attendant, pour meubler leurs colonnes, les journaux racontent le quartier. Celui des numéros de téléphone qui ne figurent pas dans l'annuaire, des Porsche grises et des Ferrari rouges, ou l'immeuble qui a, selon François, entendu de nombreux secrets en 30 ans. Ou bien Madame Dassault elle-même, cette grand-mère modèle, discrète, courageuse et d'un grand sang-froid, dit-on d'elle. Au journal de 13h de France Inter du lendemain, le journaliste Pascal Rossini égrène les hypothèses.
On peut penser, on pense d'abord, c'est la première hypothèse retenue, à l'enlèvement classique pour une lourde rançon, et aussi pour les bijoux que portait Madame Dassault. Mais on se demande aussi si l'enlèvement de Madame Dassault ne pourrait pas s'inscrire dans un contexte politique. On pense que peut-être ce serait une nouvelle manifestation de l'OAS. L'OAS a subi des coups très sérieux ces derniers mois et semble avoir tout particulièrement, et depuis longtemps, des difficultés financières. Oui, plus d'argent ou très peu. Deuxième hypothèse, l'hypothèse de la vengeance personnelle. Celle-ci semble exclue. Monsieur Dassault n'a jamais reçu de menaces. On envisage aussi, on en parle plutôt à demi-mot et tout à fait officieusement, comme d'une hypothèse un peu en l'air, il faut dire. Mais quoi, tout semble possible, encore une fois, après cet extraordinaire enlèvement, on parle d'espionnage commercial. Il ne faut pas oublier qu'un certain nombre de prototypes sont à l'étude dans les usines Dassault. Il faut bien dire qu'étant donné la personnalité même de la victime et aussi l'audace invraisemblable de cet enlèvement en plein Paris, c'est une extraordinaire affaire, l'affaire de l'année, comme on dit dans notre jargon.
On pense, on envisage, on parle, mais on ne sait rien. Le principal, c'est de meubler, d'être présent parce que la concurrence l'est aussi. On n'a rien à dire, mais on est là. Alors, qui a bien pu enlever l'épouse de l'avionneur? Le préfet de police de l'époque, Maurice Papon, se rend sur place. Et il y a là comme un raccourci ironique de l'histoire. L'ancien sous-préfet de Gironde, condamné pour complicité de crimes contre l'humanité, reconnu coupable de l'envoi de convois juifs vers des camps d'extermination nazis, se porte en soutien de l'ancien déporté juif rescapé de Buchenwald. On se rattrape comme on peut. Avant 1945, Marcel Dassault s'appelait en effet Marcel Bloch, fils d'Adolphe Bloch, juif alsacien, et de Noémie Alatini, héritière fortunée d'une dynastie juive de Thessalonique. Marcel, cadet d'une famille de 4 enfants, né en 1892. L'aîné, Jules, fait carrière dans les assurances. Le deuxième, Paul, dans l'armée française. Déjà général avant la Seconde Guerre mondiale, sa résistance le couvre d'honneur. Il y prend le pseudonyme de Charles Dassault. C'est de là que viendra le nom Dassault. Le troisième, René, chirurgien, est déporté et meurt à Mauthausen. Une famille victime de l'horreur, une famille exemplaire de courage aussi, et de talent. Quand éclate la Première Guerre mondiale, en effet, le jeune diplômé de l'école supérieure d'aéronautique qu'est Marcel Bloch est affecté à un laboratoire de recherche et participe à la création de l'hélice éclair, qui équipe bon nombre d'avions de guerre français. Il fait réaliser les modèles de cette très efficace hélice par un fabricant de meubles du faubourg Saint-Antoine à Paris. La fille de la maison s'appelle Madeleine. Et en juillet 1919, Marcel et Madeleine se marient. Marcel Bloch se lance dans l'immobilier, puis dans la carrosserie automobile avant de revenir aux avions. Le volume des commandes grimpe. MB-81, Bloch 200, puis les MB-210 qui rivalisaient techniquement avec les bombardiers hitlériens. Évidemment, le juif Marcel Bloch est la cible des journaux antisémites, comme « Je suis partout » ou « Gringoire ». Alors, lorsque la France capitule en 1940, il est arrêté et assigné à résidence jusqu'au 17 août 1944, où il monte dans un convoi à destination de Buchenwald. il y reste 13 mois. Des années plus tard, lors de l'émission Radioscopie, voilà qu'il confie à Jacques Chancel une anecdote étonnante sur sa déportation et sur sa femme.
Ah si, pendant que j'étais à Buchenwald, eh bien ma femme a toujours pensé à moi. Le jour où je suis revenu, elle a rêvé que j'en revenais avec un chapeau gris. C'est assez curieux, parce que quand je suis parti, je n'avais pas un chapeau gris, il était bleu. Et naturellement, comme j'ai déjà expliqué, on vous prend tout ce qu'on a à l'arrivée et on est en treillis. Alors au moment de revenir, le camp était libéré et les chefs du camp ont dit aux gens qui partaient « Habillez-vous comme vous voulez ». Et j'ai récupéré le chapeau gris d'un déporté qui était probablement mort et je suis revenu avec un chapeau gris. Bon, et ben, elle a rêvé ça, c'est assez drôle.
Sacré bonhomme, 20 ans après être revenu des camps, Marcel Bloch est devenu Marcel Dassault, père des célèbres avions à réaction Mystère et Mirage, dont les ventes se comptent en milliards d'euros. Ces avions s'arrachent dans le monde entier, rivalisant avec les appareils américains. Et ce sont, quelques mois plus tard, ces Mirage 4 qu'on équipe de la bombe atomique française. Mais Dassault refuse de ressembler à un milliardaire. D'ailleurs, un jour, il a été surpris, rêveur, semblant envier deux ouvriers qui saucissonnaient sur un chantier une bouteille de vin à leurs pieds. Sénateur et député de l'Oise, il fait construire des maisons à bon marché, crée des lignes de bus, fait installer le chauffage dans des écoles, accorde une quatrième semaine de congés payés à ses employés, et ses usines sont celles qui connaissent le moins de grèves dans le pays. Il verse même, chaque année, une rente annuelle au journal L'Humanité. Oui, parce qu'il doit sa survie à un détenu communiste qui a partagé son sort à Buchenwald. Un journal ajoute « Aux États-Unis, sa puissance serait célébrée comme une valeur nationale. Eh bien, en France, où on a le capitalisme honteux du fait d'une tenace mauvaise conscience envers l'argent, M. Dassault a plus d'adversaires que d'admirateurs. » Mais en ce samedi 23 mai 64, après l'enlèvement de sa femme, M. Dassault est juste un mari inquiet qui ne parvient pas à se reposer. En bas de son appartement, c'est l'effervescence. Des journalistes interrogent tout le monde et filment les proches qui grimpent sur le perron. Des badauds s'approchent pour avoir quelque chose à raconter plus tard. Et des policiers font des allées et venues sur le trottoir. Dans les rédactions, on phosphore d'un bureau à l'autre en répétant « OAS, OAS, cette organisation paramilitaire clandestine qui ne digère toujours pas la fin de l'Algérie française ». Quatre fois, apprend-on au journal du soir de France Inter, quatre fois, l'OAS effectivement a revendiqué l'enlèvement.
Inter, actualité.
Il y a eu tout d'abord un coup de téléphone au journal Le Monde. Coup de téléphone anonyme, bien sûr. Notre camarade qui l'a reçu a dit que l'homme s'exprimait posément. Il a demandé 1 milliard de rançons. Deuxième coup de téléphone au journal François. Voilà ce que notre camarade François Voisin a entendu.
Le correspondant m'a annoncé « Madame Dassault sera rendue en échange du général Raoul Salan ».
L'affaire devint encore plus troublante avec le troisième coup de téléphone. À 17h, en effet, un correspondant appelait l'agence France Presse. Cette fois, il se réclamait ouvertement de l'état-major de l'OAS. Il exigeait toujours une rançon d'1 milliard d'anciens francs, mais il demandait aussi à donner lecture d'un communiqué. Enfin, quatrième coup de téléphone, à l'agence de presse étrangère, Youpi. Là encore, on se réclamait de l'armée secrète et on redonnait le communiqué qui avait déjà été transmis à l'agence France Presse.
En réalité, ces revendications sont bidons. La preuve, ce samedi matin, à 8h, un courrier parvient à Marcel Dassault. Un mystérieux Concorde 89 ordonne à l'avionneur de provisionner 4 millions de francs en petites coupures et le prévient que de nouvelles instructions vont suivre. Au-dessous du message, dactylographié, quelques lignes manuscrites de Madeleine Dassault elle-même, qui dit « Mon chéri, ne t'inquiète pas, je suis très bien traité. Fais ce qu'on te dit, je te reviendrai bientôt. » Quelques heures plus tard, le général Pierre de Bénouville, grand ami de Marcel Dassault, s'envole pour Genève. Alors, pour contacter des anciens de l'OAS, pensent les journalistes, influencés par les quatre revendications de l'organisation, non. Plus prosaïquement, c'est pour retirer la somme demandée dans une banque genevoise que Bénouville fait le déplacement. La police, elle, poursuit ses opérations de ratissage. Le commissaire Bouvier est persuadé que les ravisseurs ne sont pas allés bien loin. Qu'ils sont cachés dans la grande région parisienne. Mais Bouvier ignore une chose. En ce samedi après-midi, tout comme son ministre de tutelle, celui de l'Intérieur, Roger Frey. Car ce même jour, en fin de matinée, il se trouve qu'un avocat se rend à la prison de Fresnes pour visiter un client. Cet avocat ne fait pas partie des ténors du barreau, et le détenu en question ne fait pas partie des seigneurs de la truanderie. Mais une heure plus tard, l'avocat court chez le procureur de Paris. Car son client, dit-il, sait des choses sur l'enlèvement de Madame Dassault. Et il est prêt à tout raconter si on le remet en liberté et si on efface son triste curriculum vitae judiciaire de souteneur. Alors le procureur appelle le ministre de la Justice, Jean Foyer, qui donne son accord en omettant soigneusement de prévenir son homologue de l'Intérieur. Pas informé lui non plus de la tractation en cours, Dassault reçoit en soirée un coup de téléphone. Ici Concorde 89. Vous avez reçu ma lettre ? Oui, répond Marcel Dassault. Alors je vous répète que vous devez préparer 4 millions de francs en coupure de 150. Vous recevrez lundi soir ou mardi des instructions pour fixer le lieu où vous remettrez cet argent. Mais le dimanche matin, à 10h30, la nouvelle tombe. Madeleine Dassault vient d'être libérée par des gendarmes qui l'ont retrouvée dans un pavillon de Villers-sous-Saint-Leu dans l'Oise, à une centaine de kilomètres au nord de Paris. Son premier témoignage est diffusé 2 heures plus tard par le RTF.
Eh bien alors ce matin, vers 9h, j'ai appelé mon gardien et puis on frappe à la porte. Alors on dit, est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors je dis, oui, il y a quelqu'un, fort exprès. Oh, il me dit, taisez-vous, ne parlez pas, ne dites rien surtout, ne dites rien, ce serait très très grave.
C'est votre gardien?
Le gardien, oui, bien sûr. Alors il refrappe. Alors, voyant qu'on ne répondait pas, ils sont entrés. Et puis, j'ai vu des gendarmes. Alors, j'ai dit, je suis Madame Dassault. Alors, ils m'ont dit, vos papiers.
Monsieur Dassault, quelques secondes après cet enlèvement, quand, après avoir reçu un coup sur la tête, vous avez repris conscience, qu'est-ce que vous avez pensé?
Ben, j'ai été naturellement très embêté en me demandant comment est-ce que tout ça finira.
Ben voilà, tout est bien qui finit bien. 34 heures après son enlèvement, Madeleine Dassault est libre. Et le général de Bénouville, qui relevait les numéros des billets de la rançon, peut les remettre tranquillement dans le coffre de la Banque Genevoise. Marcel Dassault n'a plus à être bien embêté, comme il dit, par cette histoire. Une heure plus tard, il fixe à ses plus proches collaborateurs un rendez-vous de travail pour le lendemain, de bon matin, comme si de rien n'était. Place Beauvau, le ministre de l'Intérieur lui est en toupie. Lui et sa police n'étaient au courant de rien. Car après avoir libéré et absous le détenu qui a balancé la cage des ravisseurs, le procureur de Paris n'a mis dans la confidence que la compagnie de gendarmerie de l'Oise. Furieux d'avoir été ainsi court-circuité, Roger Frey fait placer aux arrêts le capitaine de la compagnie et punit les deux gendarmes qui ont libéré Madame Dassault. Des fonctionnaires punis pour avoir bien fait leur travail, on aura tout vu. écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le rapt de Madeleine Dassault.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Madeleine Dassault sourit aux caméras, un sourire de jeune fille qui vient de jouer un bon tour. Elle est donc libre et raconte à l'envi son rapt et sa détention aux journalistes qui se pressent autour d'elle. Il y a d'abord, explique-t-elle, la déesse dans laquelle on la pousse, on la masque, on la chloroforme. Puis une maison inconnue et une pièce au milieu de laquelle on a dressé une tente dans laquelle on l'installe. Choc culturel, on imagine mal Madame Dassault adepte du camping. Voici un extrait de son interview au journal télévisé du dimanche 24 mai.
Combien y avait-il d'hommes autour de vous dans cette maison?
Quatre.
Ils vous ont menacé?
Non, ils ne m'ont pas menacé. Ils m'ont dit, nous sommes des gentlemen, n'ayez pas peur.
Ils vous ont expliqué pourquoi ils vous avaient enlevé?
Oh, très vaguement. Ils m'ont dit, vous savez, on a besoin d'argent, tout ça. J'ai dit, moi, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas le savoir.
Jusqu'à la journée d'aujourd'hui, comment se sont-ils comportés à votre égard? Ils vous ont soigné?
Ils m'ont donné ce qu'il fallait, enfin, évidemment.
Ils vous ont donné à manger?
Ils n'étaient pas très fameux. Enfin, j'ai mangé tout de même.
Qu'est-ce qu'ils vous donnaient à manger?
Moi, ce que je demandais, un beefsteak et des macaronis, enfin, des choses comme ça, mais ce n'était pas très bon.
Et vous, sur le moment de l'enlèvement et quand vous êtes réveillé dans cette maison, qu'avez-vous pensé?
Ben, j'ai dit, c'est plutôt ennuyeux. Qu'est-ce que ça va donner? Combien de temps je vais rester? Alors, ils ont voulu me rassurer. Mais j'étais très inquiète pour mon mari.
Madeleine Dassault, vous venez de l'entendre, évoque par ailleurs quatre ravisseurs, quatre hommes. Or, pour les enquêteurs, ne compte n'y est pas. Ils n'en ont que trois entre les mains, en ce dimanche 24 mai 64. Les deux premiers sont deux frères, Gabriel et Gaston Darmon, les propriétaires de la maison de Villers-sous-Saint-Leu. Interrogés par Paris Presse, leur mère les défend et explique que jamais ils n'ont appartenu au milieu et jamais ils n'ont pu être mêlés à cette affaire d'assaut. Peut-être. Sauf que ce n'est pas tout à fait l'opinion des voisins de maman d'Armand. Un commerçant les a interdits de magasin tellement ils chapardaient. Un autre les a vus à plusieurs reprises trafiquer sur le trottoir. Un autre encore les a reconnus comme les voleurs de son auto. Et un ancien complice évoque des cambriolages et des vols de bijoux. Bref. Les frères d'Armand sont des petits truands, n'en déplaise à maman. Et que penser de Mathieu Costa? Le troisième homme arrêté, celui qui était le gardien de Madame Dassault, celui qui annonçait obséquieux « Madame est servie » quand il apportait les repas à la prisonnière. Ce Mathieu Costa est corse, berger, et il a été CRS avant d'être révoqué. Il le dit lui-même « Je suis un pauvre type ». En le voyant et en l'entendant, on ne peut pas tout à fait lui donner tort. Parce que juste après son arrestation, il répond à une interview de l'ORTF. Et à l'image, on le voit assis sur la banquette d'une estafette de gendarmerie. Il est menotté et tire nerveusement sur une cigarette. Les épaulettes XXL de son costume gris font comme des bosses sur son buste étroit. Pour un peu, il ferait pitié.
Vous avez été arrêté avec Madame Dassault?
Oui, monsieur.
Et que faisiez-vous avec elle?
Je la gardais.
Mais c'est l'OAS. Est-ce qu'il s'agit de l'OAS?
Non, je ne crois pas.
Est-ce que c'est une bande?
Je sais pas, je connais qu'une personne. Moi.
Comment s'appelle-t-elle?
Dominique.
Dominique comment?
Je connais pas son nom de famille.
Bon, c'est excellent. Comment vous avez-il contacté ce bonhomme?
Ah ouais, parce qu'il est venu manger deux ou trois fois chez moi, il m'a contacté chez moi.
Vous étiez un garçon de café?
Moi, oui.
Dans quel arrondissement?
Dans le 11e.
Et alors, il vous a contacté, qu'est-ce qu'il vous a dit? On va enlever Madame Dassault, vous savez que c'était Madame Dassault?
Ah non, je suis que c'était Madame Dassault quand j'ai vu le journal, moi.
Vous avez lu le journal quand?
Hier soir.
Et alors, quelle était votre réaction?
Ah ben, je voulais me sauver.
Et alors pourquoi vous ne l'avez pas fait?
J'ai eu peur.
L'affaire Dassault ressemble fort à une affaire de bras cassés. Certes, l'enlèvement lui-même traduit une certaine audace et un certain professionnalisme. Mais la détention et le choix des exécutants frisent l'amateurisme. C'est ainsi que le journal L'Aurore présente les faits. Le rapt a été mené d'une façon magistrale, mais la séquestration a été bâclée. Donc, qui a imaginé le rapt de Madame Dassault? Et qui est ce monsieur Dominique là dont parle Mathieu Costa? Le suspense ne dure pas longtemps. Le 26 mai, la presse donne un nom, Jean-Jacques Casanova, 37 ans. Mais l'intéressé est introuvable. Les informations qui circulent sur lui sont étonnantes. Cet homme, Casa pour les amis, est un type déroutant en effet. Né en Corse, enfance misérable, il cumule à Paris à la fin des années 50 deux boulots. Le premier huissier à Jour de France, l'hebdomadaire qui appartient à Marcel Dassault. La nuit, portier au Cercle Gaillon, un cercle de jeux des Champs-Élysées. Un jour de France, il est surtout connu pour les roupillons qu'il pique dans le fauteuil en cuir de l'entrée pendant ses heures de travail. Il est vrai qu'il travaille la nuit, et que la nuit, c'est fait pour dormir. D'ailleurs, les journalistes de l'hebdomadaire se souviennent de lui comme de quelqu'un de pittoresque, d'amusant avec son argot, mais d'un peu emmerdant à toujours demander de l'argent. C'est en février 61 que la police entend parler pour la première fois de ce Casanova quand une femme de ménage le retrouve ligoté à côté des coffres vidés du cercle de jeu. Les enquêteurs ont bien doute sur la réalité de son statut de victime, mais aucune preuve. Toujours est-il que dans les jours qui suivent, il troque sa vieille Simca contre une Lanchaneur. Alors évidemment, ça fait jaser. Et c'est à ce moment-là que Marcel Dassault, ou du moins la direction de Jour de France, se sépare de lui. Bon, jusque-là, on est dans le piquant, hein, pas dans le méchant. Mais entre 1961 et 1964, Casanova change de catégorie. Il participe à une dizaine de braquages. Et là, il y a mort d'homme. Le 21 novembre 63, dans le quartier des Halles, trois gangsters attaquent deux transporteurs de fonds. Un gardien de la paix affecté à la circulation, Hubert Audin, se précipite. L'un des malfaiteurs tire et le policier, un jeune homme de 23 ans, est tué. Selon des témoins qui le reconnaissent sur photo, le tueur, c'est Jean-Jacques Casanova. Alors, quand il enlève Madeleine Dassault, il n'est plus un petit bandit sympathique, mais un assassin déjà en cavale. Voilà ce qu'écrit à son sujet François dans son édition du 28 mai 64.
L'ancien petit huissier aigri de Jour de France s'était donc fait une place dans le milieu. Du moins le croyait-il. Les truands n'aimaient pas beaucoup travailler avec lui. Il a la gâchette trop facile, disait-il. Il va nous attirer des histoires. Et puis, comble de maladresse dans le milieu, Casanova refusa de verser sa participation pour régler les honoraires de l'avocat qui devait défendre un collègue malchanceux. On ne lui pardonna pas ce refus et il se retrouva pratiquement seul. C'est pour cette raison qu'il fut obligé de s'adresser à des bandits à la mie de pain, c'est-à-dire sans classe et sans valeur, pour réaliser son rêve, le rapt de la femme de son ancien patron.
Casanova est donc en fuite. On le suppose dans le sud, on croit le voir à Béziers ou à Sète. En vain. L'enquête se poursuit donc sans lui. Le juge d'instruction, Alain Simon, organise une confrontation en octobre 64. D'un côté, les Dassault, Madeleine et Marcel, de l'autre, les trois inculpés, Mathieu Costa et les frères Darmon. Dans Paris Jour, on lit, sous la photo de Madame Dassault arrivant au palais de justice, qu'elle était tête nue et vêtue d'un manteau de lainage grège croisé, dont le bas des manches est garni de visons. Passionnant. Passons donc à l'essentiel, les comptes rendus de la confrontation. Eh bien, ils ne sont guère plus intéressants que la tenue de la victime. Costa, qui avait pourtant admis qu'il avait été recruté par Casanova, ne l'a finalement jamais vu. Gaston Darmon, qui a pourtant fréquenté Casanova dans les bars de la rue des Vinaigriers, à Paris, assure être étranger au rapt et n'avoir que loué la maison de Villers-sous-Saint-Leu à Casanova, qu'il ne connaît pas plus que ça. Et si les gendarmes l'ont trouvé sur place, lui et son frère, le jour de la libération de Madeleine Dassault, c'est que Casanova leur avait demandé de faire du ménage. Passionnant, là encore. D'ailleurs, cette confrontation n'intéresse pas grand monde. L'affaire a depuis longtemps quitté la une des journaux. Non, on y évoque plutôt l'ouverture des JO de Tokyo, la saisie de 200 kilos de drogue à Marseille, la tempête et le froid qui balaient la France, la grève des distributeurs de Léou, le salon du champignon qui ouvre ses portes au jardin des plantes. Mais le 28 octobre au soir, le vénéneux, celui que l'Aurore présente maintenant comme l'ennemi public numéro 1, l'homme le plus traqué de France, est arrêté.
Dans la soirée, un homme aux cheveux roux arrivait, menottes au poignet, dans les locaux de la police judiciaire quai des Orfèvres. Jean-Jacques Casanova venait d'être arrêté. C'est place Félix Éboué que les inspecteurs de la brigade anti-gang faisaient la planque. L'arrestation, mouvementée, s'est déroulée entre l'éventaire d'une marchande de billets de loterie et celui d'une marchande de journaux.
Il était fatalement ceinturé par les agents, alors je comprenais pas ce qu'il en était. Ah oui, ils ébattaient. Hein. Ça, ils ébattaient, mais je vous assure que les agents ne laissaient pas faire.
Visiblement, après l'avoir, disons, frictionné lors de l'interpellation, les policiers lui passent non pas un savon, mais un shampoing. Au sens propre. Oui, la teinture rousse de Casanova disparaît dans les toilettes du quai des Orfèvres et le gangster retrouve sa chevelure noire. Passionnant, là encore. Quelques jours plus tard, interrogé par le juge Simon, Casanova explique le rapt de Madame Dassault. La rançon devait m'assurer une retraite paisible, assure-t-il, avant de mettre hors de cause les Darmon. Je n'ai fait que leur louer la maison et de minimiser le rôle de Costa. Je l'ai recruté comme gardien après le rapt. C'est qu'un pauvre type. » Et il ajoute: « Quant à ceux qui m'ont aidé à enlever Madame Dassault devant son domicile, je ne vous donnerai pas leur nom. Na. » Le 15 novembre, confrontée à Madeleine Dassault, Casanova déclare devant le juge: « C'est une femme de tête, elle a du cran. » Laquelle répond à la sortie du palais: « Casanova a été d'une correction parfaite. Il a même exprimé des regrets. Tardif, hélas. » Le journaliste de Paris Presse écrit: « C'était presque une conversation de salon. » Finalement, celui qui en prend le plus pour son grade, ce jour-là, c'est le chauffeur de Dassault, qui n'a pas vraiment défendu sa patronne la nuit de l'enlèvement et qui a été limogé dès le lendemain. Sur ce point, Casanova en rajoute: malgré les appels de M. Dassault, le chauffeur ne broncha pas. Mais M. Dassault, lui, est courageux. Il a défendu sa femme avec beaucoup d'énergie. Je suis désolé d'avoir dû le frapper à coups de crosse sur la tête pour le faire tenir tranquille. On a connu confrontation plus tendue. L'enquête, en tout cas, peine à réellement clarifier les obscurités du rapt. Les frères Darmon et Mathieu Costa ont-ils réellement participé à la phase 1, l'enlèvement, ou seulement à la phase 2, la séquestration? Casanova, malin, brouille les pistes, ne donne aucun nom. Il parle juste de complice. Finalement, quand le procès s'ouvre, le 9 mai 66, ils sont trois face à la cour d'assises, vu que l'un des frères Darmon échappe aux poursuites. Compte rendu d'audience des chroniqueurs judiciaires de France Inter à l'époque, le célèbre Frédéric Potcher.
On a fait asseoir monsieur et madame Dassault face au président, si bien que les journalistes ne voient que les cheveux de madame Dassault et la calvitie de monsieur Dassault. À l'accusation, l'avocat général Dubost est dans le box. Les trois accusés, Jean-Jacques Casanova, corse gras et noireau, la tête enfoncée dans les épaules. Le maigre Mathieu Costa, corse mince et timide. Et enfin, Gaston Darbon, né en Algérie, thorax et main de boxeur. À Villers-sous-Saint-Leu, dans la ferme, demande le président: qui a préparé les repas de Madame Dassault et qui l'a servi? Casanova, fièrement: moi, monsieur le président. Madame Dassault raconte encore que dans l'après-midi du samedi 23 mai, Casanova, très aimable, a bavardé avec sa victime. Madame Dassault: il m'a raconté qu'il avait un appartement très luxueux. Le dernier salon où l'on cause, en quelque sorte.
À en croire les articles, le procès n'est pas déplaisant. Casanova assume avec humour: j'aurais dû réfléchir, j'ai agi trop vite. Et il asticote la police: je connais le dossier aussi bien que le commissaire Bouvier, sinon mieux. Et il décharge ses complices. Costa, bon, l'idiot du village. Darmon, au courant de rien. Les journalistes écrivent qu'il se conduit en gentilhomme, qu'il a l'œil malin et qu'il répond par boutade. La cour semble avoir oublié que Casanova est inculpé de meurtre dans une autre affaire. Même l'avocat des Dassault se montre accommodant, c'est dire. Il demande l'indulgence pour Darmon, qui est quand même le père de 5 enfants. Et puis Casanova a demandé pardon à Madame Dassault, alors. Mais cette magnanimité ambiante ne touche pas les jurés. Casanova est condamné à 20 ans de prison. Costa à 7, Darmon à 5. Quand le président a lu la décision, rapporte l'Aurore, un long murmure de protestation s'est élevé du public massé dans la salle. Et manifestement, ce public estimait que le verdict était trop sévère.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
L'enlèvement de Madeleine Dassault. Nous en parlons avec notre invité Michel Polaco aujourd'hui. Bonjour Michel. Michel, est-ce que vous m'entendez?
Je vous entends 5 sur 5.
Ah, formidable. Je vous appelle Michel, il n'y a de secret pour personne. Hein. On se connaît bien, vous avez fait l'essentiel de votre carrière à Radio France en tant que rédacteur en chef à France Inter et France Info. Moi, je vous ai toujours connu rédacteur en chef, mais surtout passionné, toujours disponible pour nous parler d'aéronautique, de défense, de géostratégie. Et on va parler de ça d'ailleurs, un peu de Marcel Dassault. D'abord, vous l'avez côtoyé ou pas? Vous étiez un tout jeune homme?
Je l'ai côtoyé souvent parce que j'ai commencé à m'occuper d'affaires aéronautiques au début des années 70. Et donc, suivant les affaires aéronautiques, c'est-à-dire l'arrivée des nouveaux avions, le Mirage F1, les avions à géométrie variable, à décollage vertical, etc., j'ai eu l'occasion de le rencontrer. J'ai même eu quelques anecdotes amusantes avec lui à l'époque où il était très âgé. Et notamment un jour, le journal Le Quotidien de Paris avait publié sur une page entière, quatrième de couverture, la nécrologie de Marcel Dassault en annonçant sa mort. France Inter m'a appelé à 5h30 du matin en me disant « Marcel Dassault est mort, il faut absolument que tu viennes nous en parler ». Très honnêtement, j'avais des doutes, parce que j'étais allé chez Dassault peu de temps avant, j'avais rencontré des proches, et donc je me suis dit « je vais quand même appeler mon vieil ami Albert Segura, qui était l'homme de la communication de Marcel Dassault, c'est-à-dire chargé de ne pas communiquer ». Je l'ai appelé à 5h30 du matin, je lui ai dit « écoute Alfred, est-ce que tu aurais la gentillesse de me donner le numéro de Marcel, parce que ça m'ennuie beaucoup cette histoire, j'y crois pas ». Il me dit « non, j'y crois pas non plus ». Et il m'a donné le numéro de Marcel. J'ai appelé à 5h30 du matin chez Marcel Dassault. C'est Madeleine qui m'a répondu. Elle m'a dit « bonjour monsieur ». Je lui ai dit « écoutez, je suis très ennuyé de vous déranger, parce qu'il y a un journal qui publie des informations disant que Marcel va très mal, j'ai pas osé parler de sa mort ». Et ça me paraît douteux, donc j'ai pensé que ce serait bien que je vous appelle. Elle m'a dit « écoutez, vous avez très bien fait, il est à côté de moi, il dort paisiblement, mais soyez gentil maintenant, laissez-nous dormir ». Voilà, vous voyez, c'était à peu près 2 mois avant sa mort.
Mais ils sont étonnants, hein, les deux, là, chez les Dassault. On a l'impression que globalement, cette affaire d'enlèvement, pour eux, c'était presque même pas mal, quoi.
Écoutez, ce qui est frappant, c'est que dans le livre que Marcel Dassault, son unique livre, a publié, qui s'appelle « Le Talisman », où il raconte la suite de ce que vous avez raconté tout à l'heure, c'est-à-dire que, revenant de Buchenwald, il est convoqué à la préfecture de police et on lui remet quelques objets, et parmi ces objets, on lui remet son portefeuille, dans lequel se trouvait un trèfle à 4 feuilles, qu'il avait ramassé quelque temps avant-guerre, je ne sais plus très bien où. Le Talisman. Et dans ce livre, « Le Talisman », où il raconte sa vie, et c'est franchement passionnant, c'est très simple, c'est des tout petits chapitres. Il n'y a pas un mot sur l'enlèvement de Madeleine.
Et pourquoi, à votre avis ?
Écoutez, je pense qu'ils avaient décidé de tirer un trait là-dessus. Je crois aussi qu'ils avaient estimé que c'était finalement une petite affaire anecdotique qui n'était pas d'une gravité. On n'avait pas tenté de la tuer, on n'avait pas tenté de le tuer. C'était une escroquerie, il a été escroqué plusieurs fois dans son histoire. Je crois que vous avez eu l'occasion d'en parler d'ailleurs. Donc je crois qu'ils avaient tiré un trait là-dessus, qu'en plus c'était un couple très très serré, très proche, et que c'est quelque chose qu'ils avaient voulu oublier. Et puis je crois qu'il y a aussi une chose qu'on a beaucoup oubliée dans toute cette affaire, même à l'époque, c'est que 1964, c'est l'année où le Mirage 4 a commencé à prendre sa première alerte nucléaire. Lorsque la France a développé sa force de dissuasion stratégique sous l'impulsion du général de Gaulle, entité, puisqu'il y a eu les missiles du plateau d'Albion, il y a eu les sous-marins après, mais la première entité, ça a été le Mirage 4, qui est un avion absolument magnifique, dont il est quasiment incroyable que l'entreprise Dassault ait réussi à le construire dans les années 50. Et début des années 60, et il y aurait pu avoir un chantage sur l'affaire nucléaire, voyez-vous, et ça n'a jamais été abordé.
Alors justement, sur le génie d'Assault, le génie de la construction, le génie de son entreprise, de ses ingénieurs, ça commence par cette histoire d'hélice éclair qu'il conçoit. Est-ce un fait important de la Première Guerre mondiale ? Est-ce que c'est un marqueur de la carrière aéronautique de Marcel Dassault ?
Eh bien, écoutez, c'est un marqueur à double titre. D'abord, bon, il avait fait une école, l'école Breguet, puis la première entité qui s'appelait Supa et qui s'est appelée l'école supérieure d'aéronautique. Et il a eu l'idée, parce qu'à l'époque, il trouvait que les avions n'étaient pas performants, de développer une hélice en bois de bonne qualité. Et cette hélice qu'il a appelée l'hélice éclair, elle a été l'hélice qui a équipé le SPAD de Guynemer. Guynemer, c'est l'as des as.
Mais oui.
Enfin, c'est l'as des as, oui, c'est le héros de la guerre de 14-18 pour les Français, et on en parle toujours. Et c'est vrai qu'après ça, il a construit quelques avions, les SEV-4, et il en a construit, je crois, une vingtaine ou une trentaine, un truc comme ça. Et puis la guerre s'est terminée. Il avait reçu une commande de 1000 avions. Il en a construit une centaine. Et puis les avions, évidemment, n'étaient plus utiles, la guerre étant terminée. Et il a abandonné l'aviation. Et puis quand le ministre Laurent Hénac, qui était un grand ami de l'aviation et quelqu'un qui était persuadé du rôle futur important de l'aviation, a pris ses fonctions, À ce moment-là, Marcel Dassault s'est dit « il est peut-être temps de revenir à l'aviation ». Il avait été très marqué quand il était jeune, parce qu'il avait vu voler un avion Raët au-dessus de Paris, piloté par un Français, dont le comte de Lambert. Et donc, il avait quand même une fibre aéronautique. Il s'est relancé dans l'aviation, et il faut reconnaître que c'est pour le bien non seulement de la France, mais de l'aviation mondiale, parce qu'il a vraiment fait des avions absolument magnifiques. D'ailleurs, vous savez, la dernière interview que j'ai faite de lui, en 1986, peu de temps avant sa mort, je lui ai dit, je lui parlais du Rafale, et je lui ai dit, est-ce que ça va être l'avion européen? Parce qu'il y avait eu un affrontement entre l'Eurofighter, l'avion anglais, allemand, espagnol et italien, et puis le Rafale. On n'avait pas réussi à se mettre d'accord, comme en ce moment d'ailleurs, avec le SCAF, avec les Allemands. Et je lui avais dit, est-ce que ce sera l'avion européen? Et il m'avait dit, non, vous verrez, ce sera l'avion mondial. Voilà, c'était amusant.
France Inter. Affaires sensibles.
Michel Polaco, chez Marcel Dassault, il y a donc le Mirage et ensuite le Rafale, d'accord? On va parler un petit peu de Mirage, notamment le Mirage 2000. Parlez-moi de cet avion.
Alors, le Mirage 2000, c'est le premier avion à commande de vol électrique construit par Dassault. Jusque-là, les avions avaient des commandes de vol mécaniques. Les commandes de vol électriques, ça a permis de donner une souplesse fantastique et d'utiliser l'aérodynamique des avions jusqu'à des limites jusque-là quasiment inconnues. Le Mirage 2000, qui fait suite d'ailleurs à une longue lignée de Mirages, hein, dont le Mirage 3, vous savez, qui avait été l'avion de la guerre des six jours, qui avait donné la victoire aux Israéliens. Donc le Mirage 2000 est un avion qui était capable de performances que son pilote ne pouvait pas suivre. C'est-à-dire qu'il était capable d'aller à -3 ou -4 G et à +10 G. Et un être humain, il n'est pas capable, en très très peu de temps, de subir des accélérations pareilles. C'est un avion extrêmement performant, qui d'ailleurs vole toujours. On en a d'ailleurs donné quelques-uns à l'Ukraine, et qui a été évidemment, en quelque sorte, un laboratoire pour le Rafale, qui lui est un avion qui a une carrière qui va sans doute durer très très longtemps.
Et est-ce que ces avions avec cette technologie fantastique permettent aux pilotes en cas de combat aérien, de vraie guerre, de se concentrer justement sur le combat aérien, sachant que la machine fait le reste et qu'on peut lui faire confiance?
Alors effectivement, si vous voulez, les avions très modernes à commande de vol électrique et numérique sont des avions sur lesquels le pilotage est souvent très automatisé. Par exemple, le vol à très basse altitude en suivi de terrain, à 900 km/h, à 60 mètres du sol, vous imaginez bien qu'aucun pilote, de jour ou de nuit, et par mauvais temps, n'est capable de faire ce genre de pilotage. Ça ne peut se faire qu'en pilotage automatique. L'important de l'avion aujourd'hui, c'est un avion, c'est une cellule, un moteur, un radar et un système d'armes. Alors le système d'armes, c'est vraiment ce qu'on fait le plus évoluer aujourd'hui sur les avions. La vitesse, on s'en fiche. D'ailleurs, la plupart des avions maintenant ne vont même plus jusqu'à Mach 2 comme le Mirage 2000. Le Rafale va à Mach 1.8, le dernier F-35 américain va à Mach 1.7, etc. En revanche, le système d'armes, c'est-à-dire la capacité de voir des cibles jusqu'à 40 ou 50 cibles à la fois, de décider quelles cibles sont plus intéressantes ou d'autres avec ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'intelligence artificielle, et de tirer des missiles qui permettent d'abattre un avion jusqu'à 200 km avec le missile Météor français, franco-britannique même, qu'on utilise actuellement, vous imaginez ce que c'est. D'ailleurs, ça explique comment des Koweïtiens ont abattu 3 avions américains il n'y a pas longtemps, parce qu'effectivement, maintenant, le combat aérien, c'est jamais à vue. C'est toujours à 50, 60, 80, 100 et même maintenant 200 km.
Et le Rafale est évidemment très prisé, j'imagine, par les armées étrangères. À qui on les vend? On ne va pas faire la liste de tous les pays, mais à quel pays important on vend les Rafales? Qui s'en sert? Je crois l'Inde s'en sert, hein, les pilotes indiens.
Alors évidemment, il y a les Émirats Arabes Unis, il y a plusieurs pays du Golfe qui ont acheté des Rafales, il y a l'Égypte qui a acheté des Rafales, il y a quelques pays d'Europe comme la Croatie, comme la Serbie, comme la Grèce qui ont acheté des Rafales, mais ce sont des petites quantités. En fait, aujourd'hui, on a un marché formidable qui s'ouvre, c'est l'Inde, parce que l'Inde, non seulement elle achète des Rafales dans sa version terrestre, c'est-à-dire les Rafales qui décollent de la Terre et qui se posent sur Terre, la marine indienne a commandé des Rafales pour ses porte-avions, elle en a déjà commandé 36 et elle va sans doute en recommander à peu près autant, ce qui fait que le Rafale est en train d'avoir une carrière navale qui est très importante, et qu'il a fait la nique au F-18 américain, qui était son concurrent en Inde.
Bien, Michel Polaco, nous sommes dans une actualité importante dont vous vous occupez également, puisque c'est votre spécialité, c'est la guerre au Moyen-Orient et au Proche-Orient. Je vous ai regardé sur LCI hier, vous faites partie, parce que c'est une grande question, hein, vous faites partie de ceux qui pensent qu'il y aura une offensive terrestre. Vous confirmez? Dites-moi pourquoi.
Alors, si vous voulez, je crois que dans la mesure où l'offensive aérienne extrêmement copieuse et on peut dire extrêmement efficace n'a pas réussi à amener les politiques qui dirigent l'Iran, les mollahs en l'occurrence, à se rendre, contrairement à ce qui s'est passé avec Saddam Hussein en 1991, après 38 jours de campagne aérienne, là on n'est qu'à une dizaine de jours de campagne aérienne. À partir du moment où Donald Trump est pressé, où les pays du monde, il y avait une coalition de 35 pays en 1991. Ah oui, ah oui. Là, il y a juste Israël et les Américains. Le monde entier fait pression sur lui pour qu'on débloque le détroit d'Ormuz, etc. Je pense qu'il va falloir accélérer un peu les choses, parce que pour la population iranienne, c'est très difficile. Pour tout le monde, c'est difficile. Et pour Trump, il n'a pas beaucoup de temps devant lui. Il a des élections qui arrivent, etc. Je crois qu'il va être nécessaire d'y aller à pied. Cela dit, le risque sera quand même extrêmement limité, parce que je crois que les défenses iraniennes sont devenues extrêmement faibles. Leur grande force, ce sont les missiles balistiques et les drones, ce qui ne présente pas de danger pour des troupes au sol. Et je pense que la garde républicaine doit être extrêmement éparpillée, vu que tous les endroits où elle pouvait être rassemblée, les casernes, etc., ont été complètement détruits. Mon sentiment, c'est que pour accélérer les choses, la seule solution, c'est d'y aller à pied, voilà, ou en parachute.
Oui, et à quelle échéance? Bon, c'est difficile à dire, mais il nous reste quelques secondes.
C'est plus difficile à dire, ça peut être quelques jours. Je crois que c'est la conjoncture politique qui va le dire, et la préparation, parce que le 82e Airborne et peut-être le 101e Airborne, ce sont des divisions qui peuvent se déplacer très rapidement, mais quand même, il faut leur laisser un peu de temps. Puis les Américains ont toujours besoin du soutien et d'apporter du soutien à leurs troupes. Donc il faut que tout le matériel soit sur place, quoi.
Merci Michel, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, à très vite. Au revoir.
À très bientôt.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'enlèvement de Madeleine Dassault, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, et bien sûr, à la technique aujourd'hui, il y avait Titouan à la barre.